Chapitre 1. Des punitions. Il importe bien plus d'ailleurs, en particulier dans nos écoles, disons-le tout d'abord, de prévenir que de punir. Il faut tendre, sans prétendre y arriver, vers cette classe idéale où l'on ne punit pas. Au lieu de se proposer, comme les jeunes maîtres encore inexpérimentés, d'obtenir d'abord le silence et l'attention pour donner ensuite l'enseignement, c'est le contraire qu'on doit se proposer, c'est-à-dire rendre l'enseignement assez attrayant pour intéresser les élèves. L'ordre et l'application sont alors des conséquences naturelles. Que la leçon soit donnée avec intelligence, mesure et goût, on obtiendra par surcroît le silence, l'attention et le travail. Ne pas regarder la discipline comme un but à atteindre est un moyen de l'obtenir. En général, plus l'enseignement est faible, plus la discipline est dure. Bien entendu, cela ne dispense ni de bons règlements, ni de bonnes méthodes, ni de bons procédés, en un mot, des conditions favorables au travail. La tâche du maître sera en outre singulièrement facilitée. Premièrement, si la durée des classes est en rapport avec l'âge des enfants. Deuxièmement, s'il existe une judicieuse répartition du travail et du repos. Troisièmement, si une sage mesure est observée dans la durée et l'intensité des efforts exigés des élèves, car nous ne devons pas oublier qu'il faut au cerveau comme à l'estomac, indépendamment de la diversité dans l'alimentation, une somme de nourriture qu'ils puissent digérer et assimiler. Si rarement qu'on ait à punir, encore faut-il punir quelquefois. Occupons-nous donc de la nature des châtiments. Depuis l'humanité naissante jusqu'à nos jours, on a surtout fait usage des peines corporelles. On a puni l'âme indocile dans le corps qu'elle gouverne, au lieu de la châtier directement. On était plus préoccupé de l'expiation de la faute que de l'amélioration du coupable. Il a fallu d'une part l'adoucissement des mœurs et d'autre part une idée plus exacte, une appréciation plus saine du châtiment, pour reconnaître qu'il ne doit être ni une cruauté ni une vengeance, mais un moyen offert au coupable de s'amender. Les mœurs scolaires se sont ressenties de la transformation des mœurs générales, ainsi qu'on voit les grands mouvements de l'océan gagner les baies les plus reculées dans l'intérieur des terres. Aujourd'hui, dans la plupart des pays civilisés, les châtiments corporels sont tombés dans un discrédit sérieux. En Angleterre, où le respect de la tradition est excessif, on se relâche cependant des rigueurs du fouet traditionnel. Dans un rapport présenté au Conseil d'éducation de Londres, le rapporteur s'exprime ainsi. Nous sommes heureux d'annoncer que le nombre des punitions diminue, spécialement en ce qui concerne les punitions corporelles, ce qui tient sans doute aux règles établies pour les cas où ces punitions sont permises. Nous les verrions même disparaître si les maîtres avaient le droit de renvoyer les enfants incorrigibles et intraitables, ce qui est impossible dans une école ouverte à tous. Par contre, de l'autre côté du Rhin, on semble vouloir en augmenter les rigueurs, en autorisant l'instituteur à infliger des punitions corporelles sensibles qui laissent des traces comme les bleus, les raies enflées, les ecchymoses. Voici un extrait d'un jugement rendu par le tribunal supérieur d'administration de Prusse. L'instituteur, y est-il dit, est autorisé à infliger des punitions corporelles sensibles. Il doit éviter de causer des blessures marquantes qui mettent en danger la santé de l'élève. Les bleus, les raies enflées, les ecchymoses ne constituent pas de signes indiquant des blessures marquantes, car chaque correction sensible, et l'instituteur est exprimement autorisé à infliger une correction sensible, laisse des traces pareilles. L'instituteur n'est pas passible d'une peine s'il châtie un élève appartenant à une autre classe que celle qu'il dirige. La punition peut être infligée en dehors du local scolaire. La conduite de l'élève en dehors de l'école est également soumise à la discipline scolaire. L'ecclésiastique, de son côté, est autorisé, quand il donne l'instruction religieuse, à administrer des punitions sensibles. La condition de l'instituteur ne peut devenir l'objet de poursuites que lorsqu'il a infligé des blessures marquantes. Toujours est-il que c'est avec quelque répugnance, et à la dernière extrémité qu'on les applique, et en les atténuant. Ceux qui les appliquent semblent s'en excuser et les considérer comme un mal nécessaire. Remarquons, en passant, qu'un très petit nombre d'animaux mordent ou frappent à coups de bec leurs petits qui se conduisent mal. Le plus souvent, ils les grondent, et cela suffit ordinairement pour les faire rentrer dans le devoir. C'est merveille, par exemple, de voir les jeunes poussins obéir à la mère poule. Elle a un cri pour les rappeler lorsqu'ils s'égarent, un autre cri pour les rassurer s'ils ont eu peur à tort, un autre pour les rassembler si un danger se présente. Quel que soit l'ordre donné, ils obéissent à la voix maternelle. Comment se fait-il que l'homme, qui se qualifie animal raisonnable, ne soit pas conduit uniquement par la raison? C'est sans doute parce que de tous les animaux, il est celui dont l'éducation première a la plus longue durée et réclame le plus de soins. L'éducation des jeunes animaux par leurs parents rentre dans la catégorie des actes instinctifs. Elle est invariable dans ses moyens comme dans sa durée et parfaite quant au but à atteindre. Celle de l'enfant, au contraire, se modifie avec le progrès des mœurs et la connaissance plus précise de l'hygiène. Les procédés d'éducation varient avec le degré de civilisation. Le premier châtiment corporel est infligé avec la main. Non moins diligente que la parole, la main se lève au moment même où celle-ci formule un reproche. Un ébranlement nerveux unique, parti du cerveau, se répand dans le corps tout entier et détermine simultanément l'ensemble des manifestations de la colère. La main est tout à la fois un merveilleux outil au service du corps et un admirable instrument aux ordres de l'âme. Ses mouvements ne sont pas moins variés que ses usages. Si d'une part elle sert à assurer et à guider les pas du jeune enfant, elle devient à l'occasion, envers ce même enfant, un instrument de correction. Nous n'hésitons pas à condamner cette sorte de correction, quelle qu'en soit la forme. Tape, calotte, claque, soufflet, lors même qu'elle n'a rien de prémédité ni de suivi, qu'elle résulte d'un mouvement de vivacité sans conséquence, parce que, avec une apparence anodine, elle présente parfois de graves inconvénients, sinon des dangers. Les coups sur la tête, le dos ou la face donnés par une main brutale peuvent déterminer des accidents sérieux et le soufflet a de plus un caractère dégradant. La face humaine voisine du cerveau, centralisant les organes des sens, est en rapport direct et intime avec l'âme. La personne humaine est empreinte dans le visage, plus que dans toute autre partie du corps. Voilà ce qui rend le visage digne de respect. Tout au plus, la fessée pourrait être tolérée, et encore pour de très jeunes enfants. Malgré l'aisance de ses mouvements et la vigueur de ses coups, la main ne paraît pas toujours suffire à certaines personnes, et tantôt pour des motifs de convenance ou de commodité, tantôt pour aggraver la souffrance, on l'a armée du bâton, de la baguette, du fouet, de la férule ou du martinet. Ces diverses modifications du châtiment corporel n'étaient pas pour lui conquérir des sympathies. Chez les Égyptiens, le bâton est l'instrument de correction. Comme on a pu s'en assurer par les devoirs des colliers égyptiens, qui se trouvent parmi les papyrus du British Museum, musée de Londres, et qui remontent au XVIIe siècle avant notre ère, parmi les exemples d'écriture, on lit « Celui qui n'écoute pas sera battu. Ailleurs, ne fais pas un jour de paresse, ou bien on te battra. Il y a un dos chez le jeune homme, il écoute celui qui le frappe. » La menace des coups de bâton revient souvent, mais il ne paraît pas que ce soit seulement à propos des fautes commises. Il semble que les coups aient eux aussi. Il semble que les coups aient eu aussi pour but d'encourager l'écolier au travail, d'éveiller son attention, comme le léger coup de fouet par lequel on excite le cheval et qui est comme une caresse stimulante. Les Égyptiens bâtonnent leurs ânes et ils ont procédé de même avec les écoliers. Il est même probable que la comparaison de l'écolier ignorant à un âne est d'origine égyptienne. Le bâton présente peut-être moins de dangers et d'inconvénients que le fouet pour un même effort de celui qui frappe. La verge, qui semble avoir été en usage chez les Hébreux et qui pouvait être une baguette ou un bâton, est sans doute empruntée aux Égyptiens. Nous disons qu'elle semble avoir été en usage parce que les proverbes ou autres passages qui se rapportent aux menaces de la verge ne sauraient prouver plus que nos propres proverbes, qui ne sont d'ailleurs le plus souvent que la répétition des proverbes anciens. Se figure-t-on nos descendants, retrouvant des expressions comme celle-ci, donner des verges pour se faire fouetter, et concluant de là qu'on faisait usage de ce mode de punition chez les Français. Or, c'est ainsi qu'on raisonne lorsqu'on attribue cet usage aux Hébreux, parce qu'on lit dans les proverbes la folie est liée au cœur de l'enfant, et la verge de la discipline l'en chassera, ou bien parce que Roboam dit mon père vous a battu avec des verges, moi je vous châtierai avec des verges de fer. Quoi qu'il en soit, il est permis de croire que les enfants des Hébreux ont reçu le fouet comme ceux des autres nations. Nous n'avons guère que quelques indications sommaires sur les moyens de correction appliqués par les Grecs. Xénophon nous dit, en parlant des enfants de Sparte, qu'on les encourage à dérober les fromages sur l'autel de Diane Horti, quitte à les fouetter jusqu'au sang, s'ils se laissent surprendre. Lycurgue voulait que tout citoyen eût sur chaque enfant le droit de correction, et si, frappé par d'autres, l'enfant vient se plaindre, etc., etc., c'est le châtiment corporel appliqué sans ménagement. Remarquons que les choses se passent ainsi à Sparte, et qu'on ne saurait conclure qu'il en ait été de même à Athènes, loin de là. Platon ne nous dit rien des corrections, lui qui entre pourtant dans de grands détails sur les soins à donner aux jeunes enfants, et dont les préceptes, disons-le en passant, sont en opposition avec les lois les plus élémentaires de l'hygiène. Nous ne trouvons rien non plus dans Aristote. Il est vrai que tout ce qui se rapporte à l'éducation du premier âge est traité par lui avec un évident amour de l'enfance, et que la tendresse du père laisse présumer celle de l'éducateur. Avec Plutarque, au contraire, nous sommes exactement renseignés sur le point qui nous intéresse. C'est par la douceur, la persuasion, dit-il, qu'il faut porter au bien la jeunesse. Les mauvais traitements et les coups ne conviennent qu'à des esclaves et dégradent des hommes libres. À ce régime, l'enfant devient comme hébété. Les Grecs n'en sont pas encore, on le voit, à fonder une société protectrice des animaux. Toutefois, un progrès considérable s'est déjà accompli dans les mœurs. Chez les Romains, la chose n'est pas douteuse. Les renseignements nous viennent de divers côtés. Plaute, 234-184 avant Jésus-Christ, dans sa comédie des Bacchis, met dans la bouche d'un de ses personnages ces mots. Assis auprès de ton précepteur, tu lisais, et s'il t'arrivait de manquer d'une syllabe, ta peau était aussitôt bigarrée comme le manteau de la nourrice. Horace, 65, 8 avant Jésus-Christ, nous a conservé le nom de ce rude soldat qui s'était fait grammairien à 50 ans et dont il dit « Je me souviens des vers que me dictait le fouetteur Horbilius lorsque j'étais enfant. » Loin de nous, dit Quintilien, 42-120, le châtiment ignominieux qu'on inflige aux enfants, quoique l'usage l'autorise. D'abord, il est indécent et servile, puisqu'à tout autre âge, il constituerait un outrage cruel. Ensuite, l'élève, sourd aux réprimandes, sera bientôt insensible aux coups. On pourrait multiplier les citations. Tandis que les Romains, instruits, blâment l'usage de corrections corporelles, saint Chrysostome, saint Augustin, les moines s'inspirent de la Bible, mal interprétée, pour préconiser ces corrections. Les mœurs du Moyen-Âge n'étaient pas faites pour apporter quelque adoucissement à ce régime. Nous n'avons pas l'intention de réunir ici tous les témoignages qui sont fort nombreux. Nous citerons seulement les plus intéressants. Les maîtres ne sont pas désignés autrement que par l'épithète de furieux que leur avait donné déjà saint Jérôme. Ils ne décolèrent pas, ne cessent de frapper pour faire pénétrer dans la tête de pauvres enfants des connaissances médiocres et médiocrement enseignées. Un évêque, Raterius, ou Ratier, 974, compose une grammaire qu'il intitule « Pardo ». C'est effectivement le dos qui reçoit le plus de coups, ce qui n'empêche que la tête, le visage, les fesses n'en aient leur bonne part. Les cheveux, les oreilles semblent aussi appeler les tiraillements des maîtres bourreaux. Les esprits doux et sensés s'élèvent contre ces brutalités odieuses. Saint Anselme, 1033-1109, rapporte que, causant avec un abbé qui dirigeait les études des écoliers d'un cloître, celui-ci se plaignit amèrement des enfants. « Ils sont, dit-il, méchants et incorrigibles. Nous ne cessons de les frapper jour et nuit, et ils deviennent toujours pires. »« Et quoi ? » lui dit saint Anselme. « Vous ne cessez de les frapper, et que deviennent-ils une fois grands ?»« Idiots et stupides, » répond l'abbé. « Voilà une belle éducation, » reprend le saint, « qui de l'homme fait une bête. » Le doux et pieux Gerson, 1363-1429, est l'auteur d'un petit livre dans lequel il compare les enfants à de frêles plantes pour lesquelles il réclame des soins et une vigilance active. Il se plaint de la disette de bons maîtres qui est pour leurs élèves un cœur de père et qui n'use pas de châtiment corporel. Il est plus facile, dit-il, de gagner les enfants par la douceur que par la crainte. Autrement dit, on prend plus de mouches avec une cuillerée de miel qu'avec une tonne de vinaigre. Un siècle plus tard, Rodolphe Agricola, 1442-1485, disait « Une école ressemble à une prison. Ce sont des coups, des pleurs, et des gémissements sans fin. » Après lui, Erasme, 1467-1536, continue. « C'est à la charrue qu'il faut envoyer de pareils maîtres, dignes d'effrayer de leur voix tonnante les bœufs et les ânes. Oses-tu bien, stupide bourreau, déchirer à coups de fouet des jeunes gens d'esprit et de bonne famille que tu es plus capable de tuer que d'instruire ?» Erasme et Rabelais, 1483-1553, ont cité, avec les mêmes sentiments de réprobation, le collège de Montaigu, où régnait le bourreau, Pierre Tempête, tenant en guise de sceptre le fameux fouet auquel il dut sa détestable renommée. « L'éducation se doit conduire avec une fermeté douce, » dit Montaigne. « Ôtez-moi la violence et la force, il n'est rien à mon avis qui abâtardisse et étourdisse si fort une nature bien née. » Entre autres choses, la discipline de la plupart de nos collèges m'a toujours déplu. C'est une vraie prison de jeunesse captive. Arrivez-y au moment du travail, vous n'entendez que cris et enfants suppliciés et de maîtres enivrés dans leur colère. Quelle manière pour réveiller l'appétit envers leurs leçons à ces âmes tendres et craintives que de les y engager avec une trogne effroyable, les mains armées de fouets. Combien leur classe serait plus décemment jonchée de fleurs et de feuilles que de tronçons d'osier sanglants. Le disciple de Montaigne, Charron, 1543-1603, l'auteur de « La sagesse », parle dans le même sens que son maître, quelquefois même il lui emprunte ses propres écrits. « Nous condamnons, dit-il, tout à fait la coutume presque universelle de battre, fouetter, injurier et crier après les enfants. » Préjudiciable et toute contraire au dessein que l'on a de les rendre amoureux et poursuivant la vertu, sagesse, science, honnêteté. Or, cette façon impérieuse et rude leur en fait venir la haine, l'horreur et le dépit, puis les effarouche et les entête, leur abat et ôte le courage tellement que leur esprit n'est plus que servile et bas. Les coups sont pour les bêtes qui n'entendent pas raison. Les injures et crieries sont pour les esclaves. Rollin, 1661-1741, à son tour, réprouve dans son fort intérieur les châtiments corporels. Son cœur paternel, son âme sensible y répugnent, et pourtant il hésite par respect pour les textes bibliques que nous avons cités plus haut. Nous l'avons dit, le langage de la Bible est surtout figuré, et Varret, 1632-1676, de Port-Royal, interprète les textes plus judicieusement que Rollin lorsqu'il dit « J'estime que la rigueur recommandée par l'Écriture sainte s'exerce bien plus parfaitement et mieux selon l'Esprit de Dieu par le refus d'un baiser ou des caresses ordinaires que par les verges. » Locke, 1632-1704, veut bien tolérer dans certains cas exceptionnels les peines corporelles. L'usage du fouet, dit-il, est une discipline servile qui rend le caractère servile. Quelques voix s'élèvent dans ce concert de réprobation pour parler en faveur du fouet. Melancton, Johnson, Goldschmidt déclarent qu'ils n'auraient jamais rien appris s'ils n'avaient été fouettés. C'est là une simple affirmation sans preuve, et dans tous les cas, ce ne sont pas des personnalités éminentes. Par contre, Luther protestera, lui, qui avait été battu jusqu'à 15 fois dans une seule matinée. Un enfant intimidé, dit-il, par de mauvais traitements, est irrésolu dans tout ce qu'il fait. Celui qui a tremblé devant ses parents tremblera toute sa vie devant le bruit d'une feuille que le vent soulève. Qui ne voit que le maître qui frappe un élève compromet tout à la fois sa dignité et son autorité? S'il ne se possède pas, s'il s'emporte, quel déplorable spectacle ne donne-t-il pas à son élève, et dès lors quel respect, quelle estime, quelle affection peut-il en attendre? Si au contraire il est calme, comment osera-t-il brutaliser un enfant ou assister impassible à l'exécution qu'il aura ordonnée? Et pourtant, les punitions corporelles continuent à être pratiquées. Nul n'en est exempt, pas même les enfants des grands et des rois. On le comprendrait à la rigueur dans les masses ignorantes et non policées. Là, les coups sont et seront toujours d'un usage courant. Le procédé est commode, sommaire et expéditif, à la portée de tous, tandis que les autres moyens de correction exigent bien des qualités que maîtres et parents possèdent rarement. Lorsqu'il fut question de l'éducation du dauphin, fils de Louis XIV, le marquis du Châtelet composa un traité dans lequel on lit: il n'est point ici question de férule. Un dauphin de France doit être conduit par la gloire et par la douceur. On doit ne le détourner du vice que par les charmes de la vertu. Mais malgré ces sages avis, sans doute aussi malgré Bossuet, dont tous les contemporains ont loué la douceur et qui écrivait au pape Innocent, c'est par la douceur qu'il faut former l'esprit des enfants, on donna pour gouverneur au dauphin ce soldat honnête, mais quinteux, violent, brutal, sans pitié pour l'enfance, le duc de Montausier, qui se qualifiait gaiement lui-même exécuteur des hautes œuvres et se livrait envers son royal élève à un véritable débordement de coups dont rougirait aujourd'hui un Chartier. Le fidèle valet de chambre du Bois nous a conservé le récit ému de ces scènes odieuses. Se figure-t-on Bossuet spectateur indifférent de ces honteuses violences? Encore, si la peine corporelle était efficace ou l'était plus que les autres punitions. Mais nullement. Elle est sans effet. Où la douleur n'a rien obtenu, la violence obtient moins encore. On impose par la crainte le silence et l'immobilité, non l'attention et le travail fécond. Les jésuites avaient essayé d'un fouet perfectionné, composé de petites ficelles qui effleuraient la peau sans atteindre la chair. À quoi bon? Si le fouet ne cause aucun mal, il n'est plus qu'une grossière et inutile humiliation d'une pratique pernicieuse au point de vue éducatif. Renonçons une fois pour toutes à des procédés qui terrifient l'enfant et le rendent incapable d'attention. Locke dit avec autant d'esprit que de raison qu'il est aussi difficile de fixer des idées nettes dans une âme agitée que de bien écrire sur un papier qui tremble. Comment veut-on que l'esprit de l'enfant ne soit pas troublé par les menaces et les éclats de la colère, prélude ou accompagnement ordinaire des brutalités? La crainte rend l'enfant timide et sournois. Frapper n'est pas corrigé. L'unique souci de l'enfant sera d'éviter les coups, et pour s'y soustraire, il dissimulera ses fautes par le mensonge. C'est en ce sens surtout que le châtiment corporel est anti-éducatif. Ce châtiment présente en outre des dangers sérieux. Un maître irrité ne mesure pas ses coups, et parfois il lui arrivera de dépasser une limite prudente et de blesser un enfant sans le vouloir. Un mouvement instinctif de celui-ci, pour éviter ou parer un coup, peut occasionner un accident grave. Si, à la rigueur, on use des coups envers les animaux, c'est qu'il ne nous est pas facile de nous en faire comprendre, d'autant que nous exigeons d'eux des services peu en rapport avec leur aptitude et souvent contre leur gré. On sait combien l'abus est voisin de l'usage, de là les mauvais traitements que réprime la loi protectrice des animaux. Mais l'enfant est un animal raisonnable, il nous comprend. Dès lors, pourquoi nous priver bénévolement du concours de ses facultés supérieures et d'un animal raisonnable, ne pas utiliser la raison? Jusqu'ici, il n'a été question que de coups, parce qu'en général, les coups seuls, en y comprenant les tirements d'oreilles, de cheveux et pincements, sont regardés comme des châtiments corporels. En réalité, on doit comprendre, sous cette appellation, toute privation de nature a porté atteinte à la santé. Celle d'une nourriture substantielle, par exemple. Mettre un jeune enfant au pain sec et à l'eau, c'est lui infliger une punition plus sévère qu'une tape ou qu'un coup de baguette et d'une durée plus longue. La retenue, la privation de récréation ou de promenade sont également des punitions corporelles et des plus pénibles pour un être qui a si grand besoin de mouvement. En outre, ces moyens de correction vont contre le but qu'on se propose, car s'il s'agit de réprimer la turbulence, l'immobilité qu'on impose à l'enfant ne fait qu'exaspérer le besoin de mouvement qu'il a. C'est pour lui un supplice. Laissez-le au contraire épuiser son activité afin de le calmer, qu'il dépense sa fougue hors de la classe afin qu'il ne la dépense pas au-dedans. Si de plus vous lui donnez à faire des pensum, si vous l'assujettissez à une besogne fastidieuse et stérile, vous rendez la punition plus dure encore. Ajoutons enfin qu'il y a toujours de sérieux inconvénients à donner au travail le caractère d'un châtiment. On risque ainsi d'inspirer à l'enfant le dégoût de l'étude et l'aversion pour le maître, indépendamment des mauvaises habitudes de travail qu'entraîne l'accomplissement d'une tâche rebutante. En résumé, tout châtiment corporel, quelle qu'en soit la nature, est sans effet sérieux, dangereux et anti-éducatif. C'est plus qu'il n'en faut pour le proscrire. Que reste-t-il alors comme moyen d'action? La privation de certains plaisirs, mais surtout les exhortations et les réprimandes. C'est peu, pensera-t-on peut-être. C'est suffisant, dirons-nous, pour qui saura en user avec tact, mesure et convenance, en tenant compte de la gravité plus ou moins grande de la faute, de la sensibilité plus ou moins vive de l'enfant. Swift, 1666-1745, dans son ingénieux roman de Gulliver, fait ainsi finement la critique de la discipline scolaire de son temps. Il est défendu au maître, dit-il, de châtier les enfants par la douleur. Ils le font par le retranchement de quelques douceurs sensibles, par la honte et surtout par la privation de deux ou trois leçons, ce qui les mortifie extrêmement parce qu'alors on les abandonne à eux-mêmes et qu'on fait semblant de ne les pas juger dignes d'instruction. La douleur, selon eux, ne sert qu'à les rendre timides, défaut très préjudiciable et dont on ne guérit jamais. Gardons-nous en effet de croire que la sévérité des peines s'en assure l'efficacité. La sensibilité physique ou morale s'émousse par l'effet de l'habitude. Défions-nous de cette soumission silencieuse obtenue par un mot dur ou par la menace d'un châtiment et qui dissimule mal la révolte intérieure et le cœur ulcéré. On obtient plus, dit Plutarque, par les éloges et les réprimandes que par les rigueurs si l'on a soin de les employer tour à tour, celle-ci pour détourner du mal, cela pour encourager au bien. Je veux, dit à son tour Quintilien, qu'on me donne un enfant qui soit sensible à la louange, que la gloire enflamme, à qui une défaite arrache des larmes. Un reproche, une réprimande, le touchera au vif, le sentiment de l'honneur l'aiguillonnera. Un reproche, adressé sans amertume, sinon sans gravité et sans tristesse, produit une vive impression sur l'enfant, surtout si, en lui adressant, on s'attache à lui faire reconnaître sa faute et qu'on lui inspire le désir de s'amender. Le châtiment doit être pour celui qui a commis une faute un moyen de se relever. En éducation, tout doit servir à l'éducation. Malheureusement, peu de gens savent adresser des reproches, les formuler, les graduer, prendre le ton nécessaire, choisir le moment convenable, l'occasion propice, les circonstances favorables. Il y a un art de punir. N'ajoutez pas l'insulte au reproche comme on le fait d'ordinaire, car vous aggravez ainsi la punition et vous en épuisez bientôt l'effet, si bien que vous serez désarmé pour l'avenir. Surtout, n'y revenez pas à plusieurs reprises, comme ces parents qui, à toute occasion, renouvellent leurs plaintes, invitent les parents, les amis, les étrangers même à s'associer à eux pour accabler l'enfant. C'est comme une blessure que vous rouvrez, c'est un supplice incessamment renouvelé, ce n'est plus un reproche, mais une succession de reproches, une série d'humiliations. À l'entrée de chaque visiteur, on entend « Savez-vous ce qu'a fait Jules ? Il a fait telle chose. Grondez-le donc !» Puis on compare Jules à Paul, qui est bien autrement sage, qui donne à ses parents de si vives satisfactions, etc. Heureusement que les enfants, moins soucieux que leurs parents de la prétendue sagesse qu'on leur accorde, ne s'en aiment pas moins, car les parents font tout ce qui est nécessaire pour éveiller chez leurs enfants des sentiments de haine, d'envie et de jalousie. Conditions auxquelles doivent satisfaire les punitions. Avant de donner quelques indications sur la manière dont on doit procéder dans l'application, il nous semble indispensable d'énumérer les conditions auxquelles doivent satisfaire les punitions en général. Ces conditions sont au moins aussi essentielles que les punitions mêmes, et il est absolument nécessaire de s'y conformer si l'on veut assurer l'efficacité de ces dernières. Nous ne dirons pas qu'une punition doit être juste, cela va de soi. Quand elle est injuste, c'est que parents ou maîtres se sont trompés. Nous ne saurions admettre un instant que de propos délibérés, ils veuillent commettre une injustice. C'est perdre toute confiance dans l'esprit des enfants, dit la Bruyère, et leur devenir inutile, que de les punir des fautes qu'ils n'ont point faites, ou même sévèrement de celles qui sont légères. Ils savent précisément, et mieux que personne, ce qu'ils méritent, et ils ne méritent guère que ce qu'ils craignent. Ils connaissent, si c'est à tort ou avec raison qu'on les châtie, et ne se gâtent pas moins des peines mal ordonnées que de l'impunité. Point de punition générale dans les classes. Mieux vaut laisser un coupable impuni que punir des innocents afin de pouvoir l'atteindre. Ajoutons que le plus souvent, la punition sera beaucoup plus dure pour ceux-ci qu'elle ne sera efficace pour celui-là. Premièrement, les punitions doivent être rares. La fréquence des punitions en diminue l'effet. L'élève s'y accoutume. Or, comme nous voulons faire appel aux sentiments délicats et élevés, nous ne devons le faire qu'avec de grands ménagements, afin de conserver à l'enfant toute sa fraîcheur d'impression et toute sa sensibilité. Si vous avez envie, dit excellemment Montaigne, qu'il craigne la honte et le châtiment, ne l'y endurcissez pas. Endurcissez-le à la sueur et au froid, au vent, au soleil et au hasard qu'il lui faut mépriser. Deuxièmement, toute punition infligée doit être exactement subie. Pas d'indécision à cet égard. La certitude de la punition importe bien plus que la rigueur. Réfléchissez mûrement avant d'infliger un châtiment, mais la décision prise, ne cédez ni aux cris, ni aux supplications, car si vous manquez de fermeté une seule fois, votre autorité est perdue. Dès que l'enfant se sera aperçu qu'il peut vous fléchir en vous lassant, vous n'aurez plus d'action sur lui, tandis que s'il est convaincu de son impuissance, s'il désespère de vaincre votre résistance, il n'essaiera plus de lutter, il se résignera. Que de fois nous avons entendu des mères trop vives et trop tendres s'écrier « Gaston, Si tu fais cela, tu seras privé de dessert. » Mais le moment d'après, la peine était levée, et à partir de ce moment, l'enfant savait qu'il n'avait plus à redouter l'exécution des menaces. Sans le vouloir, inconsciemment, la mère lui avait laissé voir sa faiblesse. Que tous vos refus soient irrévocables, dit Rousseau, que le non prononcé soit un mur d'airain, contre lequel l'enfant n'aura pas épuisé 5 ou 6 fois ses forces qu'il ne tentera plus de renverser. Nous donnons des instructions générales qui souffrent des exceptions. La justice n'exclut pas la miséricorde. Il faut rester inflexible tant qu'on ne voit chez l'enfant qu'un désir d'échapper à une punition, comme on évite ce qui est désagréable. Mais on peut céder devant les signes d'un repentir évident, d'un regret sincère de la faute commise et d'une douleur vraie. Troisièmement, la punition doit suivre de très près la faute. L'enfant agit et pense rapidement. La faute qu'il a commise, il l'oublie l'instant d'après. Tout est pour lui à courte échéance, le passé et l'avenir. Il vit surtout dans le présent. Que tout châtiment suive donc de très près la faute, et même s'il se peut, qu'il la suive immédiatement et comme une conséquence. L'efficacité en sera d'autant plus certaine. Un enfant qui ressent une douleur parce qu'il a touché à un objet malgré la défense qui lui en a été faite, associe plus étroitement dans son esprit la faute et le châtiment comme la cause et l'effet. Il ne désobéira pas de sitôt. Le voilà doublement averti et qui se tient mieux sur ses gardes. « Chat échaudé craint l'eau froide », dit le proverbe. Malheureusement, on ne peut que bien rarement tirer parti de ce que nous appelons les punitions-conséquences, d'abord parce que toute faute n'en comporte pas nécessairement, puis à cause des dangers qu'elle présente souvent. Laisser, par exemple, un enfant se brûler pour qu'il ne touche pas au feu, c'est courir un trop grand risque pour un trop faible résultat. Avec un pareil mode de correction, l'enfant aurait le temps de mourir avant d'avoir appris à vivre. Faire la part de l'expérience personnelle, dit M. Gréard, rien de mieux. Elle est la rançon de la liberté. Mais attendre que le jeune homme s'instruise exclusivement par ses propres fautes, n'est-ce pas la plus dangereuse des chimères? Qui donc a pu se passer de l'expérience d'autrui? Notre expérience se compose de celle de l'humanité et de la nôtre. Les deux sont nécessaires. Attendre que l'expérience résulte du jeu des événements, c'est réduire l'enfant à n'être qu'une chose ou qu'un être inconscient. C'est le priver bénévolement du facteur le plus important, la pensée, ou ne la faire intervenir que par la réflexion après coup. C'est le résultat d'un acte, dit M. Gréard, qui en détermine la nature et la valeur. Il s'agit non de bien faire, mais d'être adroit. Cela rappelle le cas des enfants de Sparte, punis non du larcin, mais de leur maladresse. Où est l'idée de responsabilité du moment que je ne compte que pour une chose? S'il y avait en cela une idée morale, on pourrait la désigner sous le nom de morale de l'habileté. Ce serait une variété de la morale de l'intérêt. Remarquons d'autre part que l'enfant, victime des choses, s'irrite, mais ne s'éclaire pas. S'il se heurte contre un meuble, il frappera volontiers le meuble et ne s'en prendra pas à lui-même. À proprement parler, il ne s'agit pas ici de l'expérience telle qu'on l'entend d'ordinaire et qu'on pourrait appeler générale, mais d'une expérience particulière. La nécessité n'en est pas douteuse, mais elle ne comporte pas l'idée de devoir, la notion du mérite et du démérite. C'est une expérience d'ordre inférieur. Quatrièmement, la punition doit être proportionnée à la faute. Gardons-nous de donner aux fautes une valeur fictive, qui résulte de ce que l'enfant et nous ne l'envisageons pas de la même manière. Tâchons de voir les choses du même œil, non à notre point de vue, mais au sien, afin qu'il ne se croie pas victime d'un excès de sévérité. L'enfant, dit Rousseau, a des manières de voir, de penser, de sentir, qui lui sont propres. Rien n'est moins sensé que d'y vouloir substituer les nôtres, et j'aimerais autant exiger qu'un enfant eût 5 pieds de haut que du jugement à 10 ans. La proportion dont nous parlons est assez difficile à garder, parce qu'il faut l'entendre comme l'enfant lui-même. Il ne s'agit pas de juger la faute avec notre jugement et notre expérience, mais comme l'enfant la juge avec son défaut ou son rudiment de jugement et d'expérience. Il sait fort bien, par exemple, que la préméditation ou la récidive constituent des aggravations de la faute. Il comprendra moins la gravité d'une faute due à la paresse ou au défaut d'attention. Nous devons attacher plus d'importance à lui faire sentir les inconvénients de la paresse qu'à le punir d'avoir été paresseux. De même, le besoin d'activité physique qu'il éprouve le rend très indulgent pour sa turbulence et lui fait éprouver des mouvements d'humeur lorsqu'on l'en punit. Il se sent incapable de se contraindre et de gouverner son corps. Cinquièmement, la punition doit être proportionnée à la sensibilité de l'enfant, elle doit varier avec l'âge. Le tempérament, la complexion, la sensibilité des enfants sont choses très variables. La même punition est plus ou moins rigoureuse selon que celui qui l'a subie est plus ou moins délicat. Une étude attentive de chaque enfant nous permettra de distribuer équitablement les peines. Quand cette étude devrait nous coûter beaucoup, il n'y a pas à hésiter, cela fait partie de la mission de l'éducateur. D'ailleurs, nous trouverons dans les résultats la compensation de nos efforts et de nos peines. Une punition de même nature peut être variée dans le degré et la forme. Il sera donc facile de dresser une échelle pour chaque sorte de punition. Toutefois, hâtons-nous d'ajouter que tout ne sera pas résolu par un tarif. N'attribuons pas au procédé une action plus efficace que celle qu'il comporte, et ne perdons pas de vue un seul instant que notre mission est d'éveiller d'abord, de cultiver ensuite le sens moral. Nous devons, pour ainsi dire, couver l'enfant, le maintenir dans une atmosphère morale qui est pour son âme ce que sont pour son corps les soins tendres, empressés, attentifs de sa mère. À peine sera-t-il abattu qu'il faudra se hâter de le relever, car rien ne doit durer pour l'enfant, surtout si les fautes qu'il commet sont la conséquence de la légèreté naturelle à son âge. Ces principes admis, passons à l'application. L'enfant commet-il des étourderies légères? Nous feindrons de ne pas voir ou de ne pas entendre une première fois. Nous tolérerons beaucoup, surtout si l'enfant est jeune, d'un tempérament ardent, d'une santé robuste. N'oublions pas, comme dit Plutarque, avec sa bonté accoutumée, que nous avons été jeunes et sachons pardonner aux enfants les fautes qui échappent à la faiblesse de leur âge. Il va même jusqu'à conseiller certaines ruses. L'âge, dit-il, rend notre vue plus faible et notre ouïe plus dure. N'est-ce pas une occasion de tirer parti de nos infirmités pour ne voir et n'entendre qu'à demi? Les étourderies se multiplient-elles par trop? Le maître donne un avertissement. S'il aime les enfants, s'il est bon et juste, doux et ferme, s'il se plaint sans humeur, gronde sans dureté, corrige sans emportement, il sera aimé et respecté de ses élèves, et l'avertissement suffira. À Port-Royal, on recommandait au maître de supporter patiemment les fautes et les faiblesses des enfants, de ne pas se montrer trop exact avec eux, ni s'inquiéter trop, de se contenter de les préserver des fautes principales et de fermer les yeux sur leurs petits manquements. De son côté, le professeur Lamy ajoute « Pour ramener les enfants à leurs devoirs, une caresse, une menace, l'espérance d'une récompense ou la crainte d'une humiliation font plus d'effet que les verges. J'ai souvent regretté que dans les établissements scolaires et dans la famille, on ne permit pas aux enfants de converser sans faire trop de bruit pendant les repas. Le silence est dans ce cas un châtiment, en même temps qu'une contravention à l'hygiène. Les nouveaux règlements, tout à la fois sensés et paternels, permettent la conversation à voix basse pendant les repas. Bien des punitions seront ainsi évitées. On ne doit pas craindre d'autoriser ce qui est juste. S'il en résulte des inconvénients, ils seront toujours inférieurs aux avantages. En supprimant les prétextes et les occasions d'infraction, non seulement on a plus rarement à donner des punitions, mais le règlement acquiert plus d'autorité parce qu'il est plus juste. Certaines punitions, ridicules ou inconvenantes, doivent être proscrites à l'égal des punitions corporelles. Ainsi, dans certaines maisons, les enfants sont condamnés à baiser la terre ou à se couvrir le visage avec leur tablier ou prendre une attitude gênante. À Port-Royal des Champs, certaines punitions étaient entourées d'un appareil d'une solennité puérile. Il faut éviter tout ce qui ôte de la gravité à un châtiment. Résumons ce qui précède en formulant un code de punition. En premier lieu, la réprimande dont on variera la forme de manière à la rendre plus ou moins sévère. Elle ne sera publique que dans des cas très exceptionnels par la gravité. Puis le pensum consistant en un certain nombre de lignes d'une écriture appliquée. Enfin, la privation d'un plaisir tel que promenade, jeux, friandises, spectacles, objets divers de toilette ou d'agrément. Si simple que soit ce code, il peut être simplifié. Nous avons à l'école Turgot un mode de punition et de récompense qui consiste uniquement en une inscription sur le cahier de notes de l'enfant. Tel élève a mérité une punition ou une récompense, on écrit sur son livret une punition ou une récompense. C'est la punition sans châtiment, la récompense sans avantage matériel. Un grand nombre d'élèves préféreraient un châtiment à la simple inscription de la punition, tant il est vrai que ce n'est pas la rigueur de la peine qui en fait l'efficacité et qu'il n'y a pas de pénétrant, de durable et de salutaire, comme le dit M. Gréard, avec sa netteté et sa précision accoutumée, que le sentiment de la faute attaché d'une main sûre à la conscience du coupable. C'est bien là la vraie punition. Si l'enfant n'éprouve pas de honte à la subir, elle a beau être dure, l'enfant redoutera la douleur, l'ennui, les privations, mais la peine sera sans effet moral. Pour un devoir mal écrit, faute de soin et sans mauvaise intention, n'infligeons pas de punition, mais donnons simplement le devoir à recommencer. Quant aux leçons à apprendre ou aux exercices de mémoire que l'enfant ne saurait pas par cœur, nous devons nous assurer s'il a fait des efforts suffisants et s'il a une mémoire ingrate. Dans ce cas, il faut venir à son aide en divisant la tâche, en la diminuant, en lui indiquant certains procédés qui la facilitent. Dans le cas contraire, s'il y a paresse évidente, l'enfant sera puni sans être dispensé pour cela de remplir sa tâche. Dans la graduation des punitions, nous devons tenir compte des goûts particuliers des enfants, car il se peut qu'un enfant accepte volontiers ce qu'un autre regarde comme une aggravation de la peine. Tel enfant attachera plus d'importance à une promenade qu'à la possession d'un objet, tandis que tel autre préférera l'objet à la promenade. Supposons maintenant que l'enfant ait commis une faute grave, qu'il se soit attiré une remontrance exceptionnelle, voici comment nous procédons. Nous le conduisons dans un endroit dont il n'a pas habituellement l'accès et qui, en conséquence, ne lui est pas familier. C'est une pièce éclairée d'un demi-jour et située dans un lieu retiré. Nous voulons exercer sur lui une première impression par le milieu. Nous prenons un air grave et résigné. Nous le faisons asseoir en face de nous. Nous lui prenons les mains en le fixant avec insistance dans les yeux. Nous lui parlons avec douceur, lentement, d'une manière un peu monotone, afin de l'assoupir peu à peu. Dans ce demi-sommeil, la volonté de l'enfant s'affaiblit. Nous lui parlons alors de la faute qu'il a commise, nous lui en faisons comprendre la gravité, nous lui en montrons les conséquences, en lui faisant craindre que la tendresse de ses parents, la confiance, l'estime, la sympathie de ses amis et de ses maîtres ne s'en trouvent diminuées. Nous lui inspirons le regret de l'avoir commise, le désir de se faire pardonner et la résolution de se corriger. L'enfant est somnolent. Dans son corps inerte, son esprit vacille, pour ainsi dire. Il sent sa volonté lui échapper en quelque sorte. C'est alors que, mis dans l'impossibilité de nous résister, il se trouve tout à fait préparé à recevoir nos avis et à suivre nos conseils. Loin de nous la pensée de substituer notre volonté à la sienne, d'affaiblir en lui le sentiment de la responsabilité. Nous le désarmons, mais seulement pour qu'il ne résiste pas. Nous le subjuguons sans l'anéantir. Il comprend nos raisonnements. Il les suit, il se les approprie. Nous sommes parvenus à pénétrer dans une place qui n'est plus défendue. Puis, lorsque l'impression est faite dans son esprit, les entraves sont enlevées. Il s'éveille, il est libre, il est meilleur. Nous n'agissons pas autrement pour détruire des habitudes vicieuses, des défauts de caractère, des affections maladives. L'enfant est pour nous, dans tous ces divers cas, un malade au moral ou au physique, par cela seul que maladie ou vice tiennent d'une organisation défectueuse par quelque côté, qu'il doit souvent, il faut bien le dire, à la négligence, à l'incurie ou au vice de ses parents. À l'éducateur de rétablir l'équilibre de ce corps et de cet esprit, mais bien entendu avec le concours du malade. Lentement et progressivement, nous amenons l'enfant à sentir les inconvénients ou les dangers de son état et la nécessité d'y porter remède. Nous insistons, nous martelons nos enseignements dans son esprit. Il nous écoute, il nous comprend. Il se laisse persuader dans son demi-sommeil, et revenu à la réalité, il se trouve dans la situation de ceux qu'un rêve a obsédés. Une première amélioration s'est produite, le mauvais pli a été défait, comme par un effort mécanique, un bâton tordu se trouve rectifié. Nous revenons à la charge, à plusieurs reprises, et chaque fois l'amélioration s'accentue. Des enfants grossiers, turbulents, indociles, paresseux, sont ainsi transformés. On a raison de leur trop grande vivacité, de leur nature emportée ou de leur apathie. C'est là un traitement qu'on pourrait désigner sous le nom d'orthopédie morale. Parfois, il faut beaucoup de temps et encore plus de patience, mais la guérison vient à la fin. Si elle est incomplète, si l'enfant retombe dans sa faute, on recommence le traitement jusqu'à ce qu'on ait triomphé de la cause du mal. Toutefois, les cas de récidive sont rares, car une première amélioration obtenue rend plus facile une amélioration plus grande, comme les exercices répétés d'une gymnastique méthodique superposent leurs effets et accroissent les forces d'une manière continue. Il se produit dans l'ordre moral quelque chose d'analogue aux intérêts composés. Chaque progrès dans le bien est la source d'un progrès nouveau, et la nature humaine continue ainsi son redressement d'elle-même, par sa propre puissance, quand la première impulsion a été donnée. L'homme devient le collaborateur conscient ou non de ceux qui suscitent en lui de bons sentiments. De même que le grain mis en terre donne naissance à un épi, de même, une bonne pensée déposée dans un esprit convenablement préparé y devient le germe d'autres pensées bienfaisantes. L'esprit, comme le corps, a des ressources propres qui ne lui viennent pas du dehors et lui permettent de lutter contre le mal ainsi que le corps lutte contre la maladie. Nos conseils, nos remèdes ne font qu'aider cette action qui se poursuit naturellement.